Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
Grand-mère Rezo n'est pas là ? Non, dit Bertille, elle est partie très tôt ce matin. À Lompon, chez votre oncle Fred.
Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi, tout va de guingois.
Et il prit l'air d'une jolie brunette, plus gentille que les amours. De belles petites joues roses comme une pêche. Un nez retroussé mignon, mignon. Si la nature pense, les paysages sont les expressions de ses idées.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrix sur Radio U 101.1.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Lyrix. Lyrix est une émission de lecture d'œuvres littéraires, que ce soit des romans, des contes, des nouvelles, des poèmes ou encore des pièces de théâtre. Lyrix, c'est le dernier dimanche de chaque mois à 20h sur Radio U et c'est avec Patricia et Marc. Aujourd'hui, nous allons vous parler des contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Il s'agit d'un recueil de 17 contes publiés dans les journaux Gil Blas et Le Gaulois entre le 19 avril 1882 et le 12 avril 1883. Avec ce titre, on pourrait croire qu'il s'agit d'une sélection de contes articulés autour du thème de la chasse, mais il n'en est rien, puisque seulement 5 contes abordent ce sujet. Alors pourquoi ce titre ? Le titre fait probablement référence au premier conte intitulé justement « La Bécasse », qui décrit un rituel entre amis qui tour à tour raconte des histoires anecdotiques qui peuvent être cocasses ou glaçantes. Parmi les thèmes abordés dans ces différents contes, on trouve les sujets chers à Maupassant, à savoir l'amour, l'adultère, la guerre, la cupidité, la peur ou encore la bâtardise. En toile de fond, on retrouve très fréquemment la raillerie et l'ironie, mais aussi le pessimisme ancré de Maupassant. Pour cette émission, nous vous avons sélectionné 2 contes. Tout d'abord, la Bécasse, qui fait donc, comme je viens de l'évoquer, office d'introduction au recueil. Et ensuite, nous terminerons par la folle. Voici donc le premier conte, la Bécasse.
Le vieux baron des Ravaux avait été pendant 40 ans le roi des chasseurs de sa province. Mais, depuis 5 à 6 années, une paralysie des jambes le clouait à son fauteuil. Et il ne pouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon ou du haut de son grand perron. Le reste du temps, il lisait. C'était un homme de commerce aimable, chez qui était resté beaucoup de l'esprit lettré du dernier siècle. Il adorait les contes, les petits contes polissons, et aussi les histoires vraies arrivées dans son entourage. Dès qu'un ami entrait chez lui, il demandait « Eh bien, quoi de nouveau ?» Et il savait interroger à la façon d'un juge d'instruction. Par les jours de soleil, il faisait rouler devant la porte son large fauteuil pareil à un lit. Un domestique, derrière son dos, tenait les fusils, les chargeait et les passait à son maître. Un autre valet, caché dans un massif, lâchait un pigeon de temps en temps, à des intervalles irréguliers, pour que le baron ne fût pas prévenu et demeurât en éveil. Et, du matin au soir, il tirait les oiseaux rapides, se désolant quand il s'était laissé surprendre et riant aux larmes quand la bête tombait d'aplomb ou faisait quelques culbutes inattendues et drôles. Il se tournait alors vers le garçon qui chargeait les armes et il demandait en suffoquant de gaieté « Y est-il celui-là, Joseph ? As-tu vu comme il est descendu ?» Et Joseph répondait invariablement « Oh, monsieur le baron ne les manque pas !» À l'automne, au moment des chasses, il invitait, comme à l'ancien temps, ses amis, et il aimait entendre au loin les détonations. Il les comptait, heureux quand elles se précipitaient. Et le soir, il exigeait de chacun le récit fidèle de sa journée. Et on restait 3 heures à table en racontant des coups de fusil. C'étaient d'étranges et invraisemblables aventures où se complaisait l'humeur hâbleuse des chasseurs. Quelques-unes avaient fait date et revenaient régulièrement. l'histoire d'un lapin que le petit vicomte de Bourril avait manqué dans son vestibule les faisait se tordre chaque année de la même façon. Toutes les 5 minutes, un nouvel orateur prononçait. J'entends « Bire, bire !» Une compagnie magnifique me paradit pas. J'ajuste « Pif, paf !» J'en vois tomber une pluie, une vraie pluie. Il y en avait 7. Et tous étonnés, mais réciproquement crédules, s'extasiaient. Mais il existait dans la maison une vieille coutume appelée les contes de la Bécasse. Au moment du passage de cette reine des gibiers, la même cérémonie recommençait à chaque dîner. Comme ils adoraient l'incomparable oiseau, on en mangeait tous les soirs un par convive. Mais on avait soin de laisser dans un plat toutes les têtes. Alors le baron, officiant comme un évêque, se faisait apporter sur une assiette un peu de graisse, oignait avec soin les têtes précieuses en les tenant par le bout de la mince aiguille qui leur sert de bec. Une chandelle allumée était posée près de lui et tout le monde se taisait dans l'anxiété de l'attente. Puis il saisissait un des crânes ainsi préparé, le fixait sur une épingle, piquait l'épingle sur un bouchon, maintenait le tout en équilibre au moyen de petits bâtons croisés comme des balanciers et plantait délicatement cet appareil sur un goulot de bouteille en manière de tourniquet. Tous les convives comptaient ensemble, d'une voix forte. 1, 2, 3 Et le baron, d'un coup de doigt, faisait vivement pivoter ce joujou. Celui des invités que désignait en s'arrêtant le long bec pointu devenait maître de toutes les têtes. Régal exquis qui faisait loucher ses voisins. Il les prenait une à une et les faisait griller sur la chandelle. La graisse crépitait, la peau rissolée fumait, et l'élu du hasard croquait le crâne suiffé en le tenant par le nez et en poussant des exclamations de plaisir. Et chaque fois, les dîneurs, levant leur verre, buvaient à sa santé. Puis, quand il avait achevé le dernier, il devait, sur l'ordre du baron, conter une histoire pour indemniser les déshérités.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. We'll be right back.
De la littérature, de la musique, c'est Lyrics, sur Radio U 101.1.
Après cette introduction, voici le conte La Folle que nous avons choisi pour cette émission. Il fait partie des textes les plus cruels de ce recueil et démontre la capacité de Maupassant à créer une atmosphère macabre en seulement quelques pages. Les thèmes abordés sont essentiellement la guerre et la cruauté.
Tenez, dit monsieur Mathieu Dandolin, les bécasses me rappellent une bien sinistre anecdote de la guerre. Vous connaissez ma propriété dans le faubourg de Cormeilles. Je l'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée une fois dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin, prit le lit, délira pendant 6 semaines. Puis, une sorte de lassitude calme succédant à cette crise violente, elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait comme si on l'eût tuée. On la laissa donc toujours couchée, ne la tirant de ses draps que pour les soins de sa toilette et pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisant boire de temps en temps ou mâcher un peu de viande froide. Que se passait-il dans cette âme désespérée? On ne le sut jamais, car elle ne parla plus. Songeait-elle aux morts? Rêvassait-elle tristement sans souvenir précis? Ou bien sa pensée anéantie restait-elle immobile comme de l'eau sans courant? Pendant 15 années, elle demeura ainsi fermée et inerte. La guerre vint, et dans les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeilles. Je me rappelle cela comme d'hier. Il gelait à fendre les pierres, et j'étais étendu moi-même dans un fauteuil, immobilisé par la goutte, quand j'entendis le battement lourd et rythmé de leurs pas. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement, tous pareils, avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Puis, les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants, et j'en eus 17. La voisine, la folle, en avait 12, dont un commandant, vrai soudard, violent, bourru. Pendant les premiers jours, tout se passa normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade, et il ne s'en inquiéta guère. Mais bientôt, cette femme, qu'on ne voyait jamais, l'irrita. Il s'informa de la maladie. On répondit que son hôtesse était couchée depuis 15 ans par suite d'un violent chagrin. Il n'en crut rien sans doute et s'imagina que la pauvre insensée ne quittait pas son lit par fierté pour ne pas voir les Prussiens et ne les point parler et ne les point frôler. Il exigea qu'elle le reçût. On le fit entrer dans sa chambre. Il demanda d'un ton brusque. « Je vous prierai, madame, de vous lever et de descendre pour qu'on vous voie. » Elle tourna vers lui ses yeux vagues, ses yeux vides et ne répondit pas. Il reprit « Je ne tolérerai pas d'insolence. Si vous ne vous levez pas de bonne volonté, je trouverai bien un moyen de vous faire promener toute seule. » Elle ne fit pas un geste, toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vue. Il rageait, prenant ce silence calme pour une marque de mépris suprême. Et il ajouta « Si vous n'êtes pas descendu demain... » Puis, il sortit. Le lendemain, la vieille bonne, éperdue, l'a voulu habiller. Mais la folle se mit à hurler en se débattant. L'officier monta bien vite. Et la servante, se jetant à ses genoux, cria « Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas. Pardonnez-lui, elle est si malheureuse. » Le soldat restait embarrassé, n'osant, malgré sa colère, la faire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain, il se mit à rire et donna des ordres en allemand. Et bientôt, on vit sortir un détachement qui soutenait un matelas comme on porte un blessé. Dans ce lit, qu'on n'avait point défait, la folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements, tant qu'on la laissait coucher. Un homme par derrière portait un paquet de vêtements féminins. Et l'officier prononça en se frottant les mains. « Nous verrons bien si vous ne pouvez pas vous habiller toute seule et faire une petite promenade. » Puis on vit s'éloigner le cortège dans la direction de la forêt d'Immoville. 2 heures plus tard, les soldats revinrent tout seuls.
To see me from the
On ne revit plus la folle. Qu'en avait-il fait? Où l'avait-il porté? On ne le sut jamais. La neige tombait maintenant jour et nuit, ensevelissant la plaine et les bois sous un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à nos portes. La pensée de cette femme perdue me hantait, et je fis plusieurs démarches auprès de l'autorité prussienne afin d'obtenir des renseignements. Je faillis être fusillé. Le printemps revint. L'armée d'occupation s'éloigna. La maison de ma voisine restait fermée. L'herbe drue poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plus de cette aventure. Moi seul y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait de cette femme? S'était-elle enfuie à travers les bois? L'avait-on recueillie quelque part et gardée dans un hôpital sans pouvoir obtenir d'elle aucun renseignement? Rien ne venait alléger mes doutes. Mais, peu à peu, le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse. Et, comme ma goutte me laissait un peu de répit, je me traînais jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué 4 ou 5 oiseaux à long bec, quand j'en abattis un qui disparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligé d'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvais tombée auprès d'une tête de mort. Et brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Bien d'autres avaient expiré dans ces bois, peut-être en cette année sinistre. Mais je ne sais pas pourquoi. J'étais sûr, sûr, vous dis-je, que je rencontrais la tête de cette misérable maniaque. Et soudain, je compris, je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur ce matelas, dans la forêt froide et déserte. Et, fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir sous l'épais et léger duvet des neiges et sans remuer le bras ou la jambe. Puis, les loups l'avaient dévorée et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré. J'ai gardé ce triste ossement et je fais des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre.
Yeah. les esprits au fond de terre.
Voilà, Lyrics, c'est terminé pour ce soir. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain pour nous replonger dans l'univers de Maupassant. D'ici là, bonne lecture à toutes et à tous.